France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien et scientifique aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'un d'entre eux vient nous en parler et aujourd'hui, notre invité sociologue a choisi d'évoquer ce livre incontournable dès qu'on parle des dérives de la démocratie. Ce livre prophétique entre sociologie, histoire et philosophie que l'on ne cesse de citer, piochant de ci de là des phrases, de quoi fustiger l'individualisme ou l'apathie démocratique. Ce livre en deux volumes, publié en 1835 et 1840, se conclut sur les dangers du despotisme. Il n'est autre que de la démocratie en Amérique, signé par le seul et l'unique...
Alexis de Tocqueville a été pendant longtemps l'homme d'un livre, La démocratie en Amérique. La lucidité de son jugement, la rigueur de ses analyses, la pureté de son style, quelques formules prophétiques aussi... On crée de lui, à partir de cet ouvrage, une image de philosophe politique un peu désincarnée, image qui s'est parfois imposée à ceux-mêmes qui ont pourtant admiré le concret des observations de sociologues, ou la singulière pénétration d'historien dont il fait preuve dans son autre grand livre, L'Ancien Régime et la Révolution. Il faut nuancer et enrichir cette image. Cet homme frêle et réservé aux yeux étincelants était un passionné. Ses enthousiasmes et ses haines politiques inspirent la verve de ses souvenirs. On ne peut donc s'étonner que la pensée de Tocqueville, poussée par une curiosité passionnée des hommes et des choses, se soit préoccupée de l'étranger et qu'il eût fortement aimé les voyages. Le plus célèbre de ses voyages, c'est celui qu'il entreprit en 1831 à 26 ans, avec son ami Gustave de Beaumont pour aller aux États-Unis. Voyage au cours duquel il devait amasser les matériaux qu'il mit en œuvre par la suite dans la démocratie en Amérique.
Bonjour Gérald Brunner.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous êtes sociologue, professeur de sociologie à la Sorbonne, membre de l'Académie nationale de médecine, membre de l'Académie des technologies et de l'Institut universitaire de France. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages. Le dernier, À l'assaut du réel, est paru aux éditions PUF. Vous y citez Tocqueville. Vous m'avez même dit... Je vous balance comme ça, Gérald Brunner, que c'était même peut-être votre livre le plus tocquevillien. Alors pourquoi? C'est qui Tocqueville pour vous? Et pourquoi c'est un livre tocquevillien à l'assaut du réel?
Ah, j'ai peur que ça paraisse très immodeste comme introduction. Disons qu'évidemment, comme on le sait, sur les épaules des géants, on voit plus loin dans l'espace et aussi dans le temps, en quelque sorte. Bah, Tocqueville, moi je l'ai rencontré en fait lorsque je rédigeais ma thèse. Qui était une thèse sur l'incertitude et donc sur l'impact des décisions, la perception des probabilités et surtout les effets sociaux que cela produisait. Et je dois dire que dans un premier temps, j'ai d'abord lu l'Ancien Régime et la Révolution et une partie de son explication de la Révolution française qui était fondée justement sur ce qu'on n'appelait pas encore sous sa plume, mais ce que d'autres sociologues comme Tedger, par exemple, ou Davis ont appelé la frustration relative, c'est-à-dire le fait qu'on anticipe au-delà du désir. Et cette anticipation au-delà du désir, finalement, c'est le cœur de mon dernier livre, à l'assaut du réel, montre qu'on n'attaque jamais autant le réel quand on a voulu rêver au-delà du possible, et que cela constitue une frustration. Je dois dire que très vite, le texte sur l'Ancien Régime m'a tellement ébloui que j'ai dû lire son grand best-seller, son voyage en Amérique et sa description de la démocratie.
Je précise que l'Ancien Régime et la Révolution de Tocqueville, ça paraît en 1856. Absolument, c'est quand même une œuvre inachevée, qui est plus historique quand même, qui est vraiment penchée sur le cas français, qui est...
Absolument.
Pour l'avoir
avant
lu...
Avant et après, d'ailleurs, la Révolution française, en fait.
C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui conduit à la Révolution en France et les effets qu'elle a? À mes yeux, c'est quand même un texte qui vous a ébloui, mais qui, pardon pour Tocqueville, mais en fait n'est presque rien à côté de la démocratie en Amérique, qui est
c'est vrai.
Fabuleux.
C'est pour ça que c'est... Enfin, je pense que c'est quand même un grand texte.
Oui, c'est un très grand texte.
Malgré tout, il y a en effet des mécanismes à l'intérieur d'explication de la Révolution française qui étaient tout à fait décapants intellectuellement pour moi et qui m'a donné envie d'aller voir plus loin ce texte magnifique, mais que je n'ai pas forcément bien reçu dans un premier temps, pour vous dire la
c'est
vérité.
Vrai.
Parce que ça m'obligeait un peu à penser contre moi-même. C'est comme ça qu'on reconnaît souvent les grands auteurs, d'ailleurs. Et la capacité de penser un peu contre soi-même aussi montre qu'on a, on est disponible à l'imprévu intellectuel. Et parce que bah, je l'ai lu quand j'étais tout jeune, j'étais en train d'écrire ma thèse, donc j'étais encore très idéaliste d'un point de vue politique. Et dans le fond, les mécanismes décrits par Tocqueville, on va y revenir plus en détail, donc je ne veux pas défricher notre sujet, mais tout de même, la question des externalités, de l'égalité et même de l'égalitarisme quand il devient une idéologie, la question justement de la frustration, du désir infini, de la régulation de ce désir, de l'impatience des peuples démocratiques, tout cela, disons, projeter un miroir anthropologique qui ne me plaisait pas, mais qui en même temps me paraissait terriblement vrai. Alors qu'est-ce qu'on fait quand tout à coup une proposition vous paraît gênante, incommodante d'un point de vue intellectuel, mais en même temps terriblement pertinente ? Ben, je crois que c'est finalement le caractère... l'œil sauvage, comme disait André Breton, d'Alexis de Tocqueville. Il le disait pas à propos de Tocqueville, mais il aurait pu le dire à propos de Tocqueville. L'œil sauvage d'Alexis de Tocqueville qui a fini par me conquérir. Et sans doute, c'est un des auteurs, pas le seul, mais qui a désenchanté peut-être un peu mon regard politique, mais m'a conduit vers une forme d'anthropologie qui était beaucoup moins naïve.
Oui, alors il faut peut-être revenir un petit peu sur votre parcours, Gérald Brunner, ou même votre... parcours intellectuel, vous l'avez déjà évoqué, dans des ouvrages autobiographiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire que vous étiez idéaliste et comment en fait Tocqueville, ça permettra aussi de le présenter aux auditeurs et auditrices, vous a dessillé, c'est-à-dire vous a presque, si je puis dire, déradicalisé.
Oui, d'une certaine façon. J'étais très radical. Alors j'évoque moins cela à propos de Tocqueville. J'étais très croyant, par exemple, mais Je le décris dans un livre qui s'appelle « Exorcisme », dont le titre, je pense, est suffisamment évocateur pour que je n'en dise pas plus. Mais conjointement à mes croyances magiques, millénaristes même, je croyais à la fin des temps, donc c'était très très radical.
Oui, donc c'est pas juste vous êtes croyant dans un monothéisme, c'est-à-dire qu'il y a de la superstition, il y a de l'astrologie,
la magie, l'ésotérisme. J'étais pas tellement justement dans un monothéisme, même si bon, c'était une grande salade de beaucoup de choses, hein, comme quand j'étais totalement autodidacte dans ces domaines, et donc quand on est autodidacte, on prend des morceaux de tout.
Qui nous intéressent et qui vont bien avec ce qu'on veut voir.
Ah voilà, ça c'est sûr que je voyais ce que je croyais, comme dirait l'autre.
Donc, par exemple, vous voyez des signes comme ça, et puis vous vous disiez, ça veut dire
ça. Oui, j'étais extrêmement sensible, et c'est même ça qui m'a fait basculer à des coïncidences qui me paraissaient extraordinaires. Et c'est peut-être la dernière chose que j'ai abandonnée, en fait, dans mon système de croyance, c'est la croyance dans le fait qu'il y avait quand même des coïncidences qui signifient quelque chose. Rassurez-vous, je ne sais pas si vous êtes inquiète, mais j'ai pris vraiment de larges distances par rapport à ça. J'ai même écrit un livre sur les coïncidences. Ce n'est pas pour rien qu'était comme une forme de testament. En tout cas, à cette époque, j'étais aussi très militant. Je me sentais proche de la pensée anarchiste, dans ce qu'elle avait de fraternel, surtout. C'était moins la notion de liberté qui m'intéressait que la notion de fraternité. Et cette fraternité, elle sous-entend malgré tout un peu une forme d'anthropologie naïve, une bonté naturelle qu'il s'agirait de révéler, et que la toxicité de l'environnement empêcherait l'épanouissement. Et évidemment, quand on lit des textes comme ceux d'Alexis de Tocqueville et qu'on se dit, mais bon sang, il a raison, en fait, nous sommes quand même un peu comme ça. Et c'est tellement vrai que ce qu'il décrit au début du 19e siècle demeure vrai à la fin du 20e, quand je l'ai lu, et au début du 21e siècle, c'est qu'il y a quelque chose d'une profondeur de regard et d'une profonde vérité, en fait. Et ça met du temps à l'accepter, mais je crois que c'est à ça que servent les livres aussi.
Alors, qu'est-ce qu'il dit, Alexis de Tocqueville, dans De la démocratie en Amérique? Je précise que Alexis de Tocqueville, c'est le fils d'un aristocrate, une famille aristocrate qui a
deux
vécu,
aristocrates même,
voilà,
en fait,
qui a vécu la Révolution, mais il s'est résolu à une idée, la démocratie est inéluctable, c'est le sens de l'histoire.
Absolument.
Donc, il décide d'aller en 1831-1832 avec son ami Gustave Beaumont aux États-Unis, avec ce prétexte qui est d'étudier le système pénitentiaire.
Absolument, c'est la mission qu'on leur donne.
Voilà, il est licencié de droit, magistrat, juriste. Il a pas l'air... Ça n'a pas l'air non plus de le faire vibrer, le droit. Donc, il part, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis. C'est de voir la démocratie à l'état pur, c'est-à-dire sans révolution, sans mix comme l'Angleterre avec des institutions aristocratiques. Donc, aux États-Unis, il veut voir par lui-même ce qui s'y joue. Mais qu'est-ce qu'il y a de si éblouissant quand il restitue cette expérience, Gérald Bronner?
Bah d'abord, il y a deux volumes hein, et qui sont un peu dissemblables. Le premier s'intéresse plus aux institutions à proprement parler américaines. D'ailleurs, il le dit lui-même, le premier volume est plus américain que démocratique et le deuxième plus démocratique qu'américain, selon une formule dont il a le secret.
Je ne la connaissais pas, elle est très bien, c'est vrai qu'elle est vraie.
Elle est assez vraie et évidemment, la plupart d'entre nous, même si dans le volume 1, il y a des choses admirables, on a plutôt un regard pour le deuxième volume qui décrit les mœurs en fait des Américains. Et c'est le premier, par exemple, à avoir vu que se loger au cœur de la démocratie et de son abondance, hein, parce qu'au moment où il observe les Américains, il considère déjà qu'ils ont une forme d'abondance matérielle, et bien que dans cette abondance matérielle se fait voir quelque chose d'une mélancolie démocratique, qui est une forme de maladie génétique de la démocratie qui ne disparaîtra jamais, en raison de mécanismes qu'il décrit avec une telle lucidité qu'il est difficile de ne pas les croire vrais.
Alors effectivement, il y a ce paradoxe qu'il décrit. Les Américains ont tout, d'une certaine manière, le bien-être matériel, l'égalité, la liberté, la presse, les associations. Ils peuvent croire facilement, ils ne sont pas soumis à une autorité, si ce n'est celle de l'opinion publique, on pourra peut-être y revenir. Mais néanmoins, ils sont malheureux. Et c'est ça qui touche quand on lit Tocqueville, Gérald Bronner, c'est que dans ce deuxième volume, il s'intéresse aux sentiments, aux idées. Vous, hommes et femmes démocratiques, on se sent touchés par ce qu'il décrit. On a l'impression qu'il nous décrit encore aujourd'hui, alors que quand ce deuxième volume paraît, on est en 1840. Mais qu'est-ce qu'il a décrit pour que ce soit encore aussi pertinent? C'est quoi sa méthode? C'est quoi le secret de Tocqueville?
Sa méthode, c'est d'abord de faire du terrain. C'est une sorte, c'est vrai qu'on le cite comme sociologue parfois, comme philosophe politique à coup sûr. Raymond Aron, nous en parlions avant l'émission, dans les étapes de la pensée sociologique, on fait une des étapes fondamentales avec quelques autres. Mais c'est aussi un ethnologue, vous savez, il n'a pas publié, c'est un texte post-mortem, 15 jours de désert, par exemple, où il décrit les mœurs des Amérindiens, des pionniers américains, et il a une plume d'ethnologue. Donc d'abord, il est curieux de l'autre, ce qui est tout à fait essentiel. Et puis ensuite, malgré ce que certains disent, il y a des gens qui ont du talent et le talent s'existe. Et il a un talent, non seulement de plume, ça c'est évident, une grâce, une parcimonie dans l'écriture et un sens de la formule juste.
C'est pas lyrique, mais ça sonne juste.
Non, avec un équilibre des paramètres, c'est-à-dire c'est pas juste bien écrit, c'est-à-dire qu'il pointe des paramètres de causalité qui paraissent évidents et il le fait en quelques mots. Et puis, il faut avoir quand même une profondeur de regard. Alors là, ça ne s'explique pas. C'est une capacité à voir ce que les autres ne voient pas, à décoïncider le regard, à ce que Max Weber disait, la science voit des problèmes là où les autres voient des évidences. Alors, il faut déjà voir des problèmes pour essayer d'avoir une énigme à résoudre. Et lui, il voit quelque chose.
Il voit des paradoxes.
Voilà, il voit le paradoxe de la mélancolie. Ces gens ont une opulence matérielle supérieure à celle de l'Europe en moyenne, alors peut-être pas de son milieu à lui, mais en général, et pourtant il semble malheureux. Alors là, il y a deux choses qu'il faut distinguer, à mon avis, et qu'il voit. Et ces deux hypothèses, deux affirmations, l'une qui tient au caractère, du fait qu'on ne peut pas assouvir ou étancher, en quelque sorte, nos désirs. Dans une société d'abondance matérielle, il y aura toujours un désir supplémentaire. Et ça, c'est une hypothèse de description, et qui a été, on va peut-être en parler, largement confirmé par la pensée expérimentale ensuite, tout au long du XXe siècle. Et la deuxième chose, c'est l'égalité. Est-ce qu'on ne devrait pas se sentir de mieux en mieux plus on est égaux? Est-ce qu'on n'est pas plus heureux dans une société où il y a moins de différences sociales, etc. Tocqueville dit peut-être, mais pas tout à fait. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors, la première chose, le caractère inextinguible, en fait, de notre désir, il y a toute une série d'économistes qui ont, sans forcément se référer à Tocqueville, d'ailleurs c'est un peu étonnant, c'est vrai que c'est parfois un auteur un peu oublié de l'histoire des idées, alors qu'il a une influence moins invisible, en tout cas qu'il est un prédécesseur de ces, de ces idées-là, eh bien on a repéré ça en quelque sorte, en particulier pour les sociétés démocratiques, grâce à un paradoxe qu'on appelle le paradoxe d'Esterlin, qui est un économiste, et qui a remarqué en fait que l'augmentation nette, notamment pendant les 30 glorieuses, du produit intérieur brut des pays, il a travaillé sur les États-Unis, ça tombe bien, c'est ce pays qui nous intéresse là, et il y a une augmentation vertigineuse du produit intérieur brut, qui est, disons, une approximation de l'enrichissement personnel, c'est un proxy statistique, comme on dit, et pour autant, le niveau de satisfaction est demeuré semblable. C'est-à-dire, il est demeuré en quelque sorte imperméable à l'augmentation de la richesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre la satisfaction et l'enrichissement. Alors on pourrait dire, est-ce de l'indifférence à l'enrichissement ? Non, car les gens qui s'enrichissent sont quand même plus heureux. Alors comment expliquer ça ? Eh bien, on explique ça par une formule qu'on appelle le tapis roulant du bonheur. Alors, il n'a pas utilisé ce terme, Tocqueville, mais il aurait pu l'utiliser parce que c'est...
ça n'existait pas encore, les tapis roulants.
D'abord, ça n'existait sans doute pas encore. Et il faudrait voir avec l'histoire de la technique, mais sans doute que ça n'existait pas. Quoi qu'il en soit, que signifie le tapis roulant du bonheur ? Bah, c'est une expérience, Géraldine, que nous avons tous vécue. Si vous avez une augmentation, par exemple d'argent ou autre, ou de prestige, ça peut marcher avec n'importe quel capital. Mm-hmm. Et puis vous êtes plus heureux, ça ne vous laisse pas indifférent. Mais très vite, vous avez absorbé ce surplus de richesse ou d'avantages, et ça devient votre normalité. De sorte que pour continuer à être heureux, il faut avancer sur un tapis roulant. C'est ça le tapis roulant du bonheur, et qui montre une insatisfaction, disons, eh bien, permanente. Et c'est dans le fond un problème d'ailleurs qui se pose à notre société, qui exprime un désir infini face à un monde dont on a raison de dire sans cesse qu'il est fini, et en particulier matériellement.
Alors, on va revenir sur cette problématique du désir, parce que ça fait partie du texte que vous nous avez indiqué, Gérald Brunner, mais juste avant de l'écouter, vous avez dit cette chose importante, Tocqueville est d'une certaine manière un auteur invisible. Il y a un paradoxe quand même avec Tocqueville, c'est-à-dire qu'on voit à peu près qui c'est, on voit à peu près ce qu'il a dit, plein d'intellectuels, d'hommes politiques, de femmes politiques sont capables de piocher des citations, mais personne ne le lit véritablement. Il n'est pas non plus dans des programmes, voilà, d'agrègues. On ne sait pas si on le classe en histoire, en sociologie, en philosophie. Il y a quelque chose en fait de l'ordre de c'est une référence. Mais tout le monde a un peu son Tocqueville, et puis on ne sait pas trop finalement ce qu'il a dit. Ça tient à sa méthode du paradoxe, peut-être, mais bon, on en fait un peu ce qu'on veut, et puis des gens de droite en font quelqu'un de droite, et puis des gens de gauche en font quelqu'un de gauche. Bah, vous voyez, il est un peu malléable.
Oui, alors à mon avis, il y a plusieurs raisons à cette invisibilité qui est très relative. C'est quand même une de nos stars de l'histoire des idées.
Non, mais je reprends ce que vous avez dit. Ouais. C'est une référence qui est voilà, le tapis roulant du bonheur, vous l'avez très bien dit. C'est-à-dire que Tocqueville n'apparaît pas comme référence dans
non,
ce qui aurait pu...
Non, tout à fait. Alors qu'il a prépensé ces questions-là et magnifiquement exprimé. Il y a une question disciplinaire, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien dans quelle discipline le classer. Bon, d'abord, la sociologie n'existait pas à ce moment-là. Le terme même a été un peu forgé par l'abbé de Seyès, puis ensuite on le sait par Auguste Comte au début du 19e siècle, mais institutionnellement il n'y avait pas de sociologie à proprement parler. Mais pourtant, il y a bien des auteurs qui datent de la même période et qui sont dans les bibliographies, comme Karl Marx et d'autres. Et je pense que c'est un deuxième aspect. Il y a d'abord donc, le flou disciplinaire, et puis deuxièmement, le fait que Tocqueville, disons-le, est un penseur libéral. Il est associé à la pensée libérale, d'abord par sa défense du bicaméralisme, c'est-à-dire de la division des pouvoirs. Ça, c'est le fondement de la philosophie politique du libéralisme. Je ne parle pas de l'économie, là.
Bien vraiment entendu. De la pensée libérale.
Et puis le fait qu'il ait une interprétation alternative à celle de Karl Marx sur la Révolution française, par exemple, que nous, on a tous appris au lycée ou au collège, quand on a fait la Révolution française, c'est en fait l'interprétation marxiste de la Révolution française. C'est une lutte des classes, la bourgeoisie versus l'aristocratie, etc. Tocqueville avait une autre vision, qui n'était pas forcément incompatible, d'ailleurs. Mais
qui est plutôt complémentaire, pour le dire en deux mots.
Mais vous comprenez bien que dans les académies grègne une certaine intolérance intellectuelle, on n'est pas très, disons, favorable à toute forme de complémentarité. Voilà.
Il y a plein de libéraux qu'on étudie quand même.
Oui, mais pas, ça dépend des disciplines.
C'est-à-dire que Benjamin Constant, par exemple, c'est quand même un auteur qui est
on l'étudie
étudié.
Pas tellement. Le grand discours de l'Athénée et de Benjamin Constant, qui a marqué l'histoire des idées, qui date du début du 19e siècle aussi, n'est pas tellement étudié, à ma connaissance, en sciences sociales, par exemple.
Non, plutôt en philopolitique.
Voilà. Donc, c'est pour ça, ce sont des auteurs qui sont un peu à cheval et qui, dans les disciplines où ils devraient être cités, bah, peut-être rencontrent un peu une forme de scepticisme idéologique parce qu'il est classé dans des auteurs soit qui sentent un peu le soufre ou qui ne complaisent pas, disons, à la vision qu'on veut avoir de la société.
Et au fond, on est d'accord, Alexis de Tocqueville, on pourrait pas dire aujourd'hui voilà, qu'il est de droite ou de gauche. Il n'était pas socialiste, ça, il faut quand même le dire très clairement. Mais est-ce qu'on peut le classer, voilà, est-ce que c'est l'apanage des intellectuels de droite, Tocqueville?
D'abord, je pense sincèrement que ce serait très anachronique. Je constate aujourd'hui, d'ailleurs, qu'on ne cesse d'exhumer des termes du passé pour penser le présent. J'entends parler de fascisme, etc., à tout propos, en particulier pour ce qui se passe justement aux États-Unis, qui est un pays qui nous fascine tellement. Ce n'est pas pour amoindrir la gravité de ce qui se passe outre-Atlantique, mais je ne crois pas qu'on gagne, d'un point de vue heuristique, à convoquer des termes du passé pour éclairer un présent ou même un futur immédiat, parce que je crois au contraire qu'on risque de ne pas comprendre le caractère inédit de ce qui se produit. De la même façon, je crois que c'est un peu loufoque de penser les choses en termes de droite, de gauche. Par contre, il était libéral, ça avait clairement du sens. Il s'est inscrit d'ailleurs politiquement, il était ministre, il a même fait un peu de prison.
Oui, il a fait de la prison, effectivement.
En 1951.
Qui s'est opposé au coup d'État.
Voilà, c'était très bref, mais bon. Je crois que c'est surtout quelqu'un, c'est un penseur, qui craignait la tyrannie. Voilà. Et il la voyait d'ailleurs possiblement dans l'histoire même de la démocratie. C'est-à-dire qu'il essayait de penser à quoi pourrait ressembler une tyrannie démocratique, ce qui est un peu oxymoral, le terme de tyrannie démocratique. Elle peut avoir plein de formules. Ce qu'il avait, lui, en tête par la tyrannie démocratique ressemble pas du tout, par exemple, au genre de tyrannie démocratique qu'on voit justement outre-Atlantique. C'est un autre type de tyrannie démocratique. On a dit beaucoup, on a tressé les louanges de Tocqueville à juste titre, mais vous voyez, on peut pas dire qu'il avait anticipé le genre de choses qui sont en train de se produire. Ce qu'il craignait, lui, c'est plutôt une forme d'apathie de la part des citoyens qui aurait laissé faire, finalement, un État qui serait devenu ogresque et qui, de ce fait, serait devenu un peu tyrannique.
On va écouter tout de suite l'extrait que vous avez choisi, Gérald Bronner, et qui justement n'est pas sans rappeler, voilà, semble être le terrain un peu peut-être, les germes de ce despotisme démocratique que craignait Tocqueville.
Quand toutes les prérogatives de naissance et de fortune sont détruites, que toutes les professions sont ouvertes à tous et qu'on peut parvenir de soi-même au sommet de chacune d'elles, une carrière immense et aisée semble s'ouvrir devant l'ambition des hommes, et ils se figurent volontiers qu'ils sont appelés à de grandes destinées. Mais c'est là une vue erronée que l'expérience corrige tous les jours. Cette même égalité, qui permet à chaque citoyen de concevoir de vastes espérances, rend tous les citoyens individuellement faibles. Elle limite de tous côtés leurs forces, en même temps qu'elle permet à leur désir de s'étendre. Non seulement ils sont impuissants par eux-mêmes, mais ils trouvent à chaque pas d'immenses obstacles qu'ils n'avaient point aperçus d'abord. Ils ont détruit les privilèges gênants de quelques-uns de leurs semblables. Ils rencontrent la concurrence de tous. La borne a changé de forme plutôt que de place. Lorsque les hommes sont à peu près semblables et suivent une même route, il est bien difficile qu'aucun d'entre eux marche vite et perce à travers la foule uniforme qui l'environne et le presse. Cette opposition constante qui règne entre les instincts que fait naître l'égalité et les moyens qu'elle fournit pour les satisfaire tourmente et fatigue les âmes. On peut concevoir des hommes arriver à un certain degré de liberté qui les satisfasse entièrement. Ils jouissent alors de leur indépendance sans inquiétude et sans ardeur. Mais les hommes ne fonderont jamais une égalité qui leur suffise.
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Extrait de La démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville. Nous sommes dans le deuxième volume paru en 1840. Cet extrait est lu par Nicolas Berger. Plus précisément, nous sommes dans la deuxième partie, chapitre 13. Et je vais donner le titre qui est très parlant. Pourquoi les Américains se montrent si inquiets au milieu de leur bien-être? Alors là, Gérald Brunner, c'est la magie tocquevillienne qui opère. C'est-à-dire qu'on peut prendre un extrait d'un chapitre de ce deuxième volume. Et voilà, toute la puissance de Tocqueville s'applique. On a tout dans ce texte. On a ce qu'il voit en termes de démocratie, non pas comme régime politique, mais comme état social. Il nous parle de l'égalité comme un fait générateur qui va générer des habitudes, des manières de penser, des manières de sentir. Et donc, dans cette manière de sentir ici, celle qui vous frappe particulièrement, c'est justement cette puissance illimitée des désirs.
Oui, c'est une... C'est une sanction à la fois terrible et juste que propose Alexis de Tocqueville. C'est un dévoilement, en fait, un peu de l'âme humaine, en quelque sorte, et qui reste, encore une fois, terriblement vrai. Qu'est-ce qu'il nous dit, entre autres choses, dans ce texte? Il nous dit que nous aspirons à l'égalité, ce qui est tout à fait normal, en effet. D'ailleurs, il pense que c'est pour ça que les démocraties vont se répandre. En fait, c'est parce que cette aspiration à l'égalité universelle, c'est donc un invariant de la pensée humaine, à un moment donné, de vouloir dépasser les aspérités que provoquent les asymétries sociales. Et en même temps, nous ne nous satisfons pas tout à fait du fait que les autres soient nos égaux. C'est ça le drame. En réalité, c'est que dans l'égalité, nous cherchons tout de même la distinction. Et ça, c'est un fait qui est profondément vrai psychologiquement, car nous ne pouvons évaluer notre bonheur qu'en comparaison de celui des autres. Il y a une très belle étude que je mentionne dans À l'assaut du réel, justement, les parties tocquevilliennes de mon texte, sur les Jeux Olympiques et les individus qui gagnent donc des médailles sur les Jeux Olympiques. Donc il y a des collègues qui, je crois que c'est dans la revue Science, ont fait une étude absolument admirable des expressions émotionnelles des individus. Et bien sûr, ceux qui ont la médaille d'or sont très contents. Mais on pourrait s'attendre que ceux qui ont la médaille d'argent soient plus contents que ceux qui ont la médaille de bronze, selon la hiérarchie olympique. C'est pas du tout ce qui se produit. En fait, ceux qui ont la médaille de bronze sont beaucoup plus souriants que ceux qui ont la médaille d'argent. Et la seule raison qu'on puisse donner à ça, elle est tocquevillienne, c'est que ceux qui ont la médaille d'argent se comparent à ceux qui ont la médaille d'or, tandis que ceux qui ont la médaille de bronze se comparent à ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une médaille et de monter sur le podium.
Mais c'est vrai.
Mais c'est terriblement vrai.
Vous êtes d'accord, vous êtes d'accord avec ça?
Mais évidemment,
vous préférez être premier ou troisième que deuxième.
Et c'est ce que je dis d'ailleurs, parce que quand on dit ce genre de choses, quand on dévoile ce type d'anthropologie un peu rude, par exemple à mes étudiants, ils protestent quelquefois, ils me disent « Ah non, quand même, monsieur, vous exagérez. » Je dis, très bien, répondez à cette question. La dernière fois que vous avez eu un 12, ça vous est arrivé dans toute votre scolarité, 12, mais que tous les autres ont eu 19, quel était votre sentiment? Et comparez-le à cette fois où vous avez eu 12 et tous les autres ont eu 5. Quel état, alors que vous avez eu la même note, vous satisfait le plus? Eh bien, voilà, la terrible sanction de cela, c'est que l'évaluation de notre bonheur, quand bien même nous avons un désir sincère d'égalité, se fonde tout de même sur la possibilité d'être un peu moins égaux que les autres, c'est-à-dire de pouvoir se distinguer.
Mais le paradoxe, c'est que Tocqueville, dans sa méthode, ne cesse de comparer ce qu'il appelle les sociétés aristocratiques et les sociétés démocratiques. Les sociétés démocratiques, contrairement à l'intuition, ne reposent pas tant sur le fait générateur de la liberté, le peuple au pouvoir, mais sur cette égalité. On devrait être beaucoup plus blessé par les inégalités des sociétés aristocratiques, par la hiérarchie sur laquelle est fondée l'aristocratie. Alors pourquoi ça nous blesse quand, en fait, on va uniquement se distinguer sur des détails, Gérald Brunner? Et je précise quand même, parce que c'est vraiment important de le dire, le fait générateur l'égalité, c'est l'égalisation des conditions. C'est pas l'égalité stricto sensu. Il nous parle pas d'égalité. Il s'agit pas de dire que on doit avoir les mêmes choses chacun. Faut l'avoir en tête.
Il s'agit pas de similitude,
exactement.
Mais bien d'égalité. Et on aurait raison, entre parenthèses, de s'indigner des différences hiérarchiques. Et puis on finit par le faire dans l'histoire, mais donc Alexis de Tocqueville n'est pas du tout en défense, évidemment, de la société d'ancien régime, ni moi non plus. La démocratie a bien des
défauts. Vous ne dites pas que c'était mieux avant.
Absolument pas, non. Mais d'ailleurs, justement, ça qui est intéressant pour bien comprendre ce que veut dire Tocqueville, c'est que nous ne supporterions pas, et à juste titre, de revenir à un ancien régime avec des hiérarchies qui nous sembleraient complètement inacceptables à présent que nous avons goûté à une égalité des droits, disons. Mais pourquoi est-ce que les gens sont moins désespérés espérer, dit-il, dans des états parfois tyranniques, tout simplement parce qu'ils espèrent moins. C'est-à-dire quand rien ne vous est promis à la naissance, autre chose que d'être paysan si vous êtes fils de paysan. On suppose qu'il y a là une régulation tyrannique du désir, que je n'approuve pas, bien entendu. Mais dans une société, c'est la caractéristique des démocraties, qui vous fait, au moins d'un point de vue narratif, toutes les promesses, vous pouvez espérer, évidemment, parfois au-delà du possible, parce que ce que l'on oublie, c'est que ces sociétés demeurent hiérarchiques. C'est ce qu'il dit. La borne, en fait, change de place, mais elle est toujours là. Il peut y avoir un seul président de la République dans la Ve République, par exemple. Nous ne pouvons pas tous l'être.
Puis il y a une autorité qui est le public, qui est l'opinion publique, qui nous écrase aussi.
Ah, là, ça, c'est ce qu'il appelle la tyrannie de la majorité. Ouais. En effet, il est très attentif à ça. C'est pour ça que ce qui quand même imprègne la pensée de Tocqueville, c'est quand même son libéralisme. C'est-à-dire qu'il est très attentif aux mécanismes qui peuvent conduire, y compris au sein de la démocratie, à la tyrannie. C'est vrai qu'il a ces passages très célèbres qui soulignent la possibilité de la tyrannie de la majorité qui écrase les minorités. Parce qu'il suffit, à la limite, par le vote, d'avoir 51% des gens qui sont pour ceci, pour oppresser 49% dans le pire des cas. Et il est très attentif à ça et très admiratif, Tocqueville, on ne l'a pas encore dit, du peuple américain pour son engagement citoyen local. Ce qui le frappe quand il traverse les États-Unis, c'est le dynamisme du civisme américain. Et il y voit là, dans l'exaltation des corps intermédiaires, la possibilité, encore une fois, on voit son libéralisme, de contre-pouvoir. On se dit parfois que certains politiques, aujourd'hui, auraient été bien inspirés de relire Tocqueville et de ne pas trop affaisser les corps intermédiaires, parce que l'affaissement des corps intermédiaires, ça augmente la proxémie entre le corps électoral, enfin ça met une distance. La proxémie, c'est un terme d'Edward T. Hall qui indique la distance minimum que nous devons mettre entre les corps.
C'est génial.
Pour ne pas être mal à l'aise. Ça dépend culturellement. Vous savez, les files d'attente, par exemple, ne sont pas les mêmes au Japon.
Dans le métro, par exemple.
Ou en Italie, voilà. Si je vous parle trop près, vous allez être mal à l'aise, vous allez reculer. Et ben, selon les cultures, cette distance, elle est différente.
Et selon les moments, par exemple, dans une fête, ça va être moins gênant que selon là, si dans le studio, le vous me colliez
voilà, tout à fait.
À l'oreille.
Et puis, s'il y a beaucoup de bruit, il y a plein de choses qui peuvent faire varier cette proximité. Ben, on pourrait importer ce terme de l'anthropologue Edward T. Hall vers la politique. C'est la distance symbolique qu'il y a entre le corps électoral et le corps des élus. Et si cette distance est trop importante, eh bien, évidemment, il y a des formes de malentendus. Et je pense que le souci des corps intermédiaires chez Tocqueville était déjà une lucidité par rapport aux risques que nous voyons bien, par exemple, aujourd'hui dans la société politique française.
Donc c'est quoi les risques? C'est la centralisation, l'apathie, parce qu'il faut le dire, la grande question pour Tocqueville, c'est vraiment cette articulation entre démocratie et liberté. Comment être libre dans un État social qui est guidé moins par la liberté que par l'égalité? Et on voit bien dans le texte qui a été lu, qu'à l'échelle individuelle, alors à l'échelle collective, vous l'avez dit, il y a la presse, les pouvoirs intermédiaires, mais là, à l'échelle individuelle, Tocqueville est un des premiers à parler d'individualisme, d'atomisation de la société, et c'est bien ce qui se produit là, ce paradoxe qui est que c'est l'état social de l'individu, et en même temps, l'individu est faible, premier paradoxe, et deuxième paradoxe, cette impuissance individuelle va se traduire par une forme de toute-puissance des désirs, donc, et là je rejoins vos thèses, Gérald Brunner, sur déconnecter d'une certaine manière du réel, c'est-à-dire qu'on va se replier sur soi, on va se replier sur des désirs, sur des espoirs qui ne pourront pas se retrouver dans la réalité.
Oui, et un des dangers que Tocqueville voit, en effet, comme vous l'avez dit, c'est l'individualisme, le risque de la parcellisation de la société, et donc en fait ce qu'il appelle l'apathie. Le retrait du citoyen de la vie publique vers ses intérêts particuliers et là où nous aurions peut-être un point de désaccord, mais en fait non, parce que ce serait anachronique de ma part, disons là où m'appuyant sur lui, j'essaie de prolonger un peu sa vision, c'est que ce n'est pas tant l'apathie que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train de vivre un individualisme mais enragé, c'est-à-dire fait de communautés, de groupes qui, disons, manifestent un ressentiment à l'endroit de l'espace public. Non pas un retrait par apathie et par une
c'est
forme
une
de passivité.
C'est pas une grosse masse dans laquelle, en fait, en gros, on n'est pas noyé dans une grosse masse. C'est pas un problème
voilà,
de centralisation.
Voilà, et qui laisserait tout pouvoir à l'État, c'est ce que craignait
Tocqueville. C'est moins la tyrannie de la majorité, finalement, que le problème, effectivement, il parle de fractionnement à l'infini, de la parcellisation de la société. Là, on est plutôt du côté de ce danger-là, ce qu'avaient perçu d'autres philosophes, comme comme Rousseau, par exemple, qui pouvait dire « Le problème, en fait, de la volonté générale, c'est qu'elle ne peut ne plus être générale quand elle est trouée d'intérêts privés, d'intérêts qui ne regardent que soi. »
Absolument. Il faut que, pour l'intérêt général s'exprime, il faut qu'il y ait une convergence avec des intérêts particuliers, compris comme l'intérêt général, ce qui est quelque chose qu'on ne voit pas souvent, et en particulier dans une société, en effet, la nôtre, hein, où nous pouvons, ce que j'appelle un peu la post-réalité, c'est-à-dire ne plus entendre les rebuffades que le réel oppose à l'expression de notre désir. Donc on parle bien d'une forme de dérégulation du désir et d'une possibilité, à la fois narrative ou technologique, de s'enfermer dans des formes de revendication qui, par exemple, mettent le ressenti avant les effets du réel comme exigence politique ou normative. Et ceci, je pense, est aussi la conséquence de cette compulsion de la comparaison. Et le fait que, par exemple, nous soyons dans des sociétés avec les réseaux sociaux où la transparence est beaucoup plus forte. Ce qui fait que l'expression de la richesse des autres nous paraît beaucoup plus visible. Vous savez que des chercheurs allemands ont montré que quand on parcourt les réseaux sociaux, on en sort plus triste qu'avant d'y être entré. C'est une forme de mélancolie qui ressemble à celle décrite par Tocqueville. Pourquoi ? Parce que les gens sur les réseaux sociaux, nous tous, nous avons tendance à exhiber un échantillon de notre réalité qui n'est pas représentatif de notre réalité. On montre les parts les plus belles de ce que l'on fait. Si on mange dans un 3 étoiles, si on va dans un...
Donc il est à la fois de la réalité et pas de la réalité,
c'est vrai, c'est ça. Mais c'est pas représentatif. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. C'est vrai, mais c'est pas la vérité de notre vie. Et bien cette vérité exposée sur les réseaux sociaux, elle blesse notre regard. De même que le regard était blessé sous la plume de Tocqueville, et c'est ce que je propose d'appeler la société de Tantale. Vous savez, Tantale, c'est ce supplice terrible que subit cet individu immortel d'ailleurs, et qui a fait manger au dieu son propre fils, raison pour laquelle il a été puni. Il a faim, il a soif tout le temps, c'est sa punition, mais il voit l'objet de son désir. C'est-à-dire qu'il y a un arbre porteur de fruits, mais quand il tend la main, l'arbre se dérobe, et la rivière se dérobe aussi quand il a soif. Eh bien, cette transparence organisée, elle nourrit beaucoup de ressentiments, et donc de frustration. On en revient aux thèses tocquevilliennes. Regardez ce qui se passe au Népal en ce moment, les révoltes des générations Z, elles sont en partie fondées sur le dégoût qui inspire l'exhibition de la richesse d'un certain nombre de Népalais, notamment ceux qu'on appelle les Nepo Babies, c'est-à-dire les enfants de ministres qui roulent dans des voitures somptueuses. Ça, c'est assez normal d'ailleurs que ça nous enrage.
Mais alors, il y a toute une gamme quand même de la tristesse chez Tocqueville. Là, on l'a entendu, le tourment, la fatigue, l'inquiétude, la mélancolie, vous l'avez dit. Mais il n'y a pas le terme frustration. J'ai vérifié, Gérald Bonnoir, il n'y a pas la frustration. La frustration, c'est plus de l'ordre de la colère. Et de l'infantilisme, enfin de l'infantile aussi. Et c'est vrai qu'à un moment donné, Tocqueville craint ce côté infantile avec la centralisation du pouvoir, l'apathie. Mais c'est pas ce qu'il y a dans le texte. Et j'ai repéré ce texte qui m'a beaucoup frappé. Je vous le soumets. Tocqueville, il dit « Il ne faut pas croire qu'au milieu de tout leur labeur, les gens qui vivent dans les démocraties se jugent à plaindre. Le contraire se remarque. Il n'y a point d'hommes qui tiennent autant à leurs conditions que ceux-là. Ils trouveraient la vie sans saveur si on les délivrait des soins qui les tourmentent. Ils se montrent plus attachés à leurs soucis que les peuples aristocratiques à leurs plaisirs. » Alors là, je voulais savoir ce que vous en pensiez, Gérald Bronner, parce que moi, ça m'intéresse. Vous parlez de frustration, terme qui n'apparaît pas chez Tocqueville, mais qu'on peut tirer d'une certaine manière de Tocqueville. Mais là, Tocqueville nous dit « il y a un plaisir du tourment, il y a un plaisir de l'inquiétude ». Et là aussi, il a raison. On n'est pas forcément que dans le ressentiment, dans la colère, dans la revendication. On est aussi cet Américain, cette Américaine, qui se retrouve à boire chez lui seul et qui pense à ses affaires, à ses tourments et qui jouit de ça.
Oui, peut-être aussi parce qu'il jouit par comparaison, en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'il sait
il
bien,
jouit de l'inquiétude
il
aussi.
Sait bien la nature de sa liberté. Et puis c'est vrai qu'il y a plein de formules oxymorales et très justes chez Tocqueville.
On pourrait dire que c'est vrai.
Il parle d'énervement, de tourment, de tourment paisible, etc. Il y a quelque chose de cet ordre, mais il y a peut-être aussi quelque chose de la vision des autres sociétés. On dit souvent, par exemple, que les Français, c'est vrai, les enquêtes internationales le montrent, se montrent plus pessimistes que les autres. Mais y compris que les Irakiens, ce qui semble concernant l'avenir, ce qui semble quand même un peu fort de café, compte tenu de la situation difficile que ces peuples vivent par rapport à nous. Mais je crois qu'une des sources d'explication, c'est la claire conscience que les Français ont de vivre dans un monde privilégié et qu'ils ont plus à perdre que les autres. Je crois que se loge dans cette inquiétude démocratique, à la fois les tourments qu'on a mentionnés, c'est-à-dire comment dirais-je, la jalousie de jalousie comparative, la peur de perdre aussi, en fait. C'est-à-dire la claire conscience qui est une forme de privilège à vivre dans un espace démocratique et tout à coup le tourment de pouvoir perdre soudainement ce qui fait l'objet de nos inquiétudes, paradoxalement.
Ou alors un ressort psychologique de plaisir de l'inquiétude.
Oui, alors là, on est dans les affres presque psychanalytiques.
Bah, c'est ça, mais oui.
Et moi, en tant que sociologue, là, mes conjectures refluent.
Autant la sociologie analytique, c'est-à-dire l'individualisme méthodologique, qu'esquisse Tocqueville, oui, mais la psychanalyse collective, non. Ça, vous...
Je le concède, plutôt non, oui, en effet. Mais chacun ses passions.
Si vous aviez été en utopie, si vous aviez assisté au spectacle de ces institutions et de ces mœurs, comme moi qui ai passé là 5 ans de ma vie, et qui n'ai pu me décider à en sortir que pour révéler ce nouveau monde à l'ancien, vous avoueriez que nulle autre part il n'existe de société parfaitement organisée. Le soir, après souper, les utopiens passent une heure en divertissement. L'été dans les jardins, l'hiver dans les salles communes où ils prennent leur repas. Ils font de la musique, ou se distrait par la conversation. Ils ne connaissent ni dés, ni cartes, ni aucun de ces jeux de hasard, également sots et dangereux. Ils pratiquent cependant deux espèces de jeux qui ont beaucoup de rapport avec nos échecs. Le premier est la bataille arithmétique, dans lequel le nombre pille le nombre. L'autre est le combat des vices et des vertus. Ce dernier montre avec évidence l'anarchie des vices entre eux, la haine qui les divise et néanmoins leur parfait accord quand il s'agit d'attaquer des vertus.
Extrait de l'Utopie de Thomas More, un texte de 1516. Cette archive date du 6 mai 1966, c'était sur France Culture. C'est vous, Gérald Brunner, qui nous avez indiqué à Manon de la Selle, qui prépare l'émission, que voilà, Tocqueville et les textes utopiques, c'est radicalement opposé. Vous connaissez très bien cette littérature. Alors, bon, il y a le rapport au réel, il y a le rapport à la méthode. Qu'est-ce qui se joue d'autre dans cette littérature utopique que vraiment rejette Tocqueville ?
Oui, en tout cas, on peut les mettre en regard. Mmh. Finalement, les lire et l'une nous informe sur la pensée de l'autre, en quelque sorte. Que sont les textes utopiques ? On connaît tous l'utopie de Thomas More. Il y a bien sûr des auteurs comme Campanella, Étienne Cabet, Voyage en Icarie, etc. Grosso modo, ce sont des textes qui sont un peu ennuyeux, il faut bien le dire. Ils sont très descriptifs, c'est-à-dire qu'on nous décrit...
Ils sont effrayants. Personne ne voudrait vivre dans ces sociétés.
Alors, détrompez-vous, eux voulaient y vivre. C'est pas Campanella, par exemple, a écrit des lettres qui indiquaient qu'il espérait que ce genre de société pourrait advenir. Et d'ailleurs, pourquoi n'adviendrait-elle pas, dit-il, écrit-il, puisqu'elles ont existé jadis sous la forme du paradis. Et voilà, c'est ça qui est visé, en fait. Ce sont des sociétés parfaites, sur le papier, on est bien d'accord, j'ai pas du tout envie de vivre non plus là, parfaites, parce qu'elles sont toutes égalités dans le sens similitude. En effet, les enfants sont élevés en commun, souvent dans les textes utopiques, vous êtes habillés exactement de la même façon, vous avez des maisons qui sont semblablement faites, dans des rues perpendiculaires, avec un mobilier commun, et la perpendicularité est très importante, parce que c'est l'imposition de la géométrie sur l'imperfection du monde. C'est pour ça qu'ils font peut-être des batailles arithmétiques aussi. Il y a une exaltation de temple de la science, vue en fait comme l'expression de la rationalité qui s'impose au désordre de la nature. Mmh. C'est la théorie du monde sublunaire, à la limite d'Aristote, qu'il s'agit en fait de combattre ici et maintenant par la régularité géométrique, mais on choisit aussi pour vous, votre amoureux ou votre amoureuse, n'est-ce pas ? Il y a une forme d'eugénisme dans les textes utopiques, c'est pour que améliorer l'espèce des utopiens ou des icariens ou des solariens, selon qu'on les appelle. C'est très intéressant. Pourquoi est-ce que j'avais envie de mettre ça en regard de Tocqueville ? Parce que précisément eux ont une exaltation imaginaire de l'égalité et ils croient que pour obtenir l'égalité pure et parfaite qui satisferait les hommes, il suffit de les rendre homogènes. Mais ce que Tocqueville aurait répondu, c'est que quand tout est de niveau, la moindre différence blesse le regard, je le cite de mémoire. Et effectivement, il n'est pas possible de rendre les hommes parfaitement égaux. D'abord, il n'est pas sûr qu'ils aspirent à cela. L'égalité peut être...
Il y a ce levier de la distinction qui
persiste. Peut être une valeur, mais probablement que les individus auront goût pour se distinguer. D'ailleurs, la passion pour la similitude est telle chez les textes utopiens que je vous ai dit qu'ils habitaient des maisons semblables, mais vous allez me dire, oui, d'accord, mais certains sont au centre et d'autres sont à la périphérie. Qu'à cela ne tienne, ils font des tirages au sort tous les 6 mois pour redistribuer les maisons, vous voyez. Donc, le hasard est en lui-même une expression de la similitude, c'est-à-dire de l'égalité parfaite. On a tous une chance d'être... Alors, bien sûr, on imagine dans les utopies que la régularité géométrique du bâti et du vêtement va déterminer une régularité des mœurs. Il n'y aura aucune criminalité que ça. Bien sûr que tout cela est absolument cauchemardesque en réalité. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, quand on lit ces textes, ça nous fait penser à des dystopies et certainement pas des utopies. Il y a aucune désirabilité de notre part quand on lit ces textes. Et je crois qu'effectivement, l'exaltation de cette égalité folle dans ces textes montre combien le regard de Tocqueville à propos des questions d'égalité était aiguisé et subtil.
Mais comme vous le dites très bien aussi, Gérald Brunner, se joue une question de croyance. On a besoin de croire dans ces formes de société possibles. Et dans votre dernier texte, vous mettez bien aussi en regard, l'excès de croyance face au rapport à la réalité. Alors, on pourrait dire que Tocqueville est dans le réel. Il a une méthode d'observation, il a fait du terrain et il met loin derrière lui tout ce qui est de l'ordre de type contrat social avec des fictions ou de l'utopie. On n'est pas dans la croyance avec lui, on est dans le réel.
Oui, ce que je crois qui anime Tocqueville, même si encore une fois on a dit qu'il avait des valeurs politiques, puisqu'il était un homme politique, ce qui anime Tocqueville, c'est la volonté de comprendre en réalité. Tandis que ces utopies, elles sont d'ailleurs pas inutiles pour la pensée politique, mais elles sont comme des asymptotes en réalité. On a besoin aussi d'un imaginaire utopique pour rentrer dans le progrès des mœurs, par exemple, pour se battre, pour obtenir un certain nombre de choses. L'égalité a connu encore, dans notre passé récent, des acquisitions. Le mariage des couples homosexuels est un acquis, d'égalité. Il y avait des individus qui n'avaient pas les mêmes droits que d'autres. Donc, vous voyez, le chemin est encore long et il a besoin, pour être animé, en effet, pourquoi pas, de penser politique asymptotique. Mais c'est pas du tout ce qui intéresse Tocqueville. Ce qui intéresse Tocqueville, c'est la description, la compréhension des mécanismes, et même, comme politique, c'est ce qui l'intéresse, c'est l'équilibre du pouvoir, c'est-à-dire l'observation des externalités que produisent les bonnes intentions. Il est pas du tout dupe sur le fait que l'enfer en est pavé.
Et quel est le problème avec le réel aujourd'hui? Parce que Tocqueville, on a parlé de la différence entre aujourd'hui et Tocqueville. Tocqueville craignait l'homogénéisation. On est plutôt dans des sociétés de parcellisation de l'opinion publique. Mais il avait aussi une totale confiance dans la raison humaine. Il le dit au début du volume 2. Il dit « J'ai montré comment l'égalité des conditions faisait concevoir aux hommes une sorte d'incrédulité instinctive pour le surnaturel et une idée très haute et souvent fort exagérée de la raison humaine. » Là, vous vous éloignez aussi de Tocqueville, parce que...
Alors, je m'éloigne tout à la fois.
Il a cette confiance que vous n'avez plus, peut-être, dans cette raison ou cette incrédulité
à
laquelle vous ne croyez plus.
J'essaye d'être tocquevillien de ce point de vue aussi. C'est pas une question de confiance ou de croyance, c'est une question d'observation.
Oui.
Alors, je suis pas allé aux États-Unis exactement observer comme lui. Moi, j'ai observé les mondes numériques et j'y ai rapporté un certain nombre d'observations. Et c'est vrai que j'ai un point de désaccord, mais je ne saurais lui en faire le grief. Ce serait encore une fois totalement anachronique.
On n'est pas obligé d'être totalement fidèle.
Heureusement,
à un penseur.
On serait d'ailleurs très infidèle à Tocqueville si on en faisait un totem.
Oui.
Je crois qu'il faut aussi pouvoir penser contre ses maîtres intellectuels. Et je suis aussi en désaccord avec un des autres de mes maîtres, qui était Raymond Boudon, sur ce point de vue.
Qui a d'ailleurs écrit sur Tocqueville.
Absolument, qui a écrit un livre sur Tocqueville, comme Yon Elster. C'est donc un auteur qui a quand même suscité des écrits. Et en l'occurrence, la vision globale, à la limite, de la pensée libérale sur ces questions, c'est que la libéralisation du marché des idées allait forcément avantager, d'un point de vue concurrentiel, les propositions les plus rationnelles. Et c'est ce que j'ai été amené à contester dans un livre dont le titre est « La démocratie des crédules » et qui dit bien ce qu'elle dit, c'est « Nous restons en démocratie, mais ce qui tente éventuellement à s'imposer, dans le pire des cas, c'est les propositions qui vont le plus dans le sens de notre spontanéité intellectuelle. Non pas les propositions les plus résistantes et les plus vraies, mais les plus vraisemblables, les plus satisfaisantes d'un point de vue intellectuel. C'est ça que produit, c'est ce genre d'externalité que produit la dérégulation du marché de l'information, qui était très largement accéléré par l'apparition des mondes numériques.
Mais ça, Tocqueville le dit, il dit le problème aussi, c'est qu'on a besoin des croyances parce qu'on a besoin en fait de connaissances imparfaites. On ne peut pas tout connaître, la connaissance est impossible, on a besoin de faire confiance à un autre, cet autre n'est sûrement pas mon voisin, parce que pourquoi serait-il meilleur et plus à croire que moi? Mais c'est l'opinion publique, c'est le public.
Ah là là, je suis très tocquevillien, alors au contraire, sur ce sujet, oui, moi je pense que ce qui relève de la connaissance d'un individu, ce que moi je connais en tant que, pardon, comme Gérald Bronner, tient dans le creux de ma main. La plupart des choses que je crois,
c'est l'autorité d'un tiers.
En fait, je le sais par délégation. Et ça, Tocqueville le dit bien, il n'est plus possible d'absorber l'intégralité de la connaissance, même au temps de Tocqueville, imaginez aujourd'hui. Et donc, les sociétés de la connaissance ont ce paradoxe que plus l'on sait collectivement, moins la part de ce que je sais individuellement est importante. Et donc, c'est un paradoxe informationnel. Et de ce point de vue, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais vous aurez constaté, et il l'aurait constaté s'il vivait aujourd'hui, que ce qui est nécessaire à ce mécanisme, c'est la confiance dans les institutions, par exemple, qui trient les idées, comme la science, etc. Et c'est une confiance qui est en partie, n'est-ce pas, le prestige, disons, de certaines communautés scientifiques, par exemple en matière médicale, sur des questions très précises, sur le vaccin ou autre, sur le réchauffement climatique.
En fait, on a perdu cette confiance dans le public.
Une partie de nos concitoyens ont perdu leur mécanisme de croire par délégation. Et c'est un mécanisme qui s'est grippé. Il y a 1000 explications, on ne va pas pouvoir en parler aujourd'hui, peut-être une autre fois. Et j'y ai consacré, c'est vrai, une partie de mon œuvre. J'essaye de comprendre pourquoi la prédiction de la liberté des idées pour laquelle je suis n'a pas abouti à des sociétés parfaitement rationnelles, aux sociétés de la connaissance, mais ce que je crains de plus en plus, à des démocraties de crédules.
Et entre les deux, Gérald Bronner, on ne pourrait pas juste être une société de croyances ?
Ah ben de toute façon, nous resterons, que les choses soient claires.
Parce que une société purement rationnelle, ça me fait peur comme une société utopique.
Non, mais je n'aspire pas à une société parfaitement rationnelle. Ouais. J'aspire à des individus qui seraient capables de faire, au sein de la démocratie, leur déclaration d'indépendance mentale pour ne pas s'aliéner à des formes de narration dans lesquelles on peut se reposer et se protéger, par exemple, de l'incertitude. Donc, je crois par ailleurs que notre condition de croyant, je l'écris sans cesse dans mes livres, est indépassable. Il y a des limites fondamentales qui pèsent sur notre rationalité, qui font qu'on ne peut pas avoir un rapport de connaissance avec le monde. D'ailleurs, je crois que c'est ce que Descartes disait à propos de Dieu. Enfin, en lui, être et connaître ne font qu'un. Mais en nous, être, connaître ne font pas qu'un. Nous ne pouvons pas connaître l'intégralité de notre monde. Nous sommes obligés de nourrir toutes sortes de croyances. Mais qui dit croyance ne dit pas forcément pure irrationalité. Nous pouvons croire par délégation. Si je crois, par exemple, au réchauffement climatique, c'est parce que j'ai pas forcément les compétences d'avoir tous les paramètres en tête, mais je fais confiance à une communauté qui sélectionne de façon drastique les idées, de sorte qu'il me paraîtrait improbable, mais pas impossible, mais très improbable qu'ils se trompent tous en même temps. C'est une forme de croyance par délégation qui est plus raisonnable, me semble-t-il, que de tirer au hasard une idée dans l'urne numérique et de la croire plus solide que ce que produit une communauté d'experts.
Je finis sur cette phrase. Il est facile de voir qu'il n'y a pas de société qui puisse prospérer sans croyances semblables, ou plutôt qu'il n'y en a point qui subsiste ainsi. Car sans idées communes, il n'y a pas d'action commune. Et sans action commune, il existe un corps des hommes, mais non un corps social. petite chanson, Gérald Bronner, pour introduire cette séquence de fin d'émission. Après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, votre œuvre place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais que, voilà, décidément, vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ?
Aïe, 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 je ne vais pas encore me faire des amis. Mais je suis très sceptique sur le célèbre livre de Guy Debord, La Société du Spectacle.
Très bien, on ne l'a jamais eu. Vous êtes, on a eu L'Homme sans qualité, on a eu À la recherche du temps perdu, on a eu du Heidegger, du Hegel.
Oui, ça je peux comprendre.
Mais donc vous êtes le premier, Guy Debord.
Oui, ben je trouve que enfin, ce texte, a, très modestement, moi, me résiste, ou je lui résiste, je ne sais pas, de façon, d'ailleurs, sur le fond et sur la forme. J'ai beau le lire,
donc vous l'avez
relire.
Lu en entier.
Ah oui, je l'ai lu et je l'ai même, dans certains passages, relu pour essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. J'ai parfois le sentiment que ça ne veut rien dire, que ce ne sont que des analogies, des métaphores un peu enfiévrées. Je pense qu'il était, disons...
Sous substance
assez, non, ça je ne sais pas peut-être, mais je pense qu'il avait une bonne estime de lui-même, en tout cas, Guy Debord. Quand vous écrivez des choses extrêmement floues en vous disant le peuple comprendra quelque chose, je trouve que c'est assez prétentieux. Et surtout, on a l'impression d'être payé en monnaie de singe, en fait, quand on
c'est-à-dire
le dit. C'est-à-dire que voilà, on est payé en analogie, en métaphore. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont comme ça et qui jouent de l'obscurité en espérant qu'on prendra ça pour de la profondeur. Ce qui lui est arrivé, considéré par certains comme une sorte de génie.
Il est d'ailleurs cité souvent comme Tocqueville l'est, c'est-à-dire qu'il y a quelques punchlines comme ça qu'on va reprendre de Tocqueville et qu'on va reprendre aussi de Guy Debord dans La Société du Spectacle. Je précise que ce texte, il est paru en 1967. Alors on va dire, voilà, la phrase qui revient, c'est « Dans un monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux ». Ouais. Bah, en vrai, on se dit, c'est pas faux ce qu'il dit.
Oui, en fait, c'est terriblement banal, quoi. Si vous voulez, dans un monde renversé, le vrai et le faux, le haut et en bas, enfin oui.
Mais ça pourrait vous plaire, vous qui travaillez sur le réel, l'éloignement du réel, le renfermement sur les croyances.
Oui, mais il y a quelque chose de liturgique, si vous voulez, dans son texte. Ce sont des maximes. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on sait que beaucoup des slogans de mai 68 étaient inspirés du situationnisme, donc de la bande, si je puis dire, à Guy Debord, qui vient d'abord d'un mouvement qui s'appelait le lettrisme, qui voulait abolir le langage. Alors seulement, peut-être on se dit qu'ils auraient peut-être dû le faire et pas écrire ce livre.
Merci Gérald Bronner. Et bien de vous, on va lire À l'assaut du réel. C'est paru aux éditions PUF. Le roman Exorcisme que vous avez cité, c'est aux éditions Grasset. Je cite aussi votre essai Les origines. Pourquoi devient-on qui l'on est? C'était paru aux éditions Autrement. Pour lire de la démocratie en Amérique d'Alexis de Tocqueville, les deux volumes sont disponibles aux éditions Gallimard et en Garnier Flammarion. Un grand merci à Manon Delasselle et à Corinne Amard, à Nicolas Berger à la réalisation et désormais à la lecture des textes, à Raphaël Rousseau à la prise de son. Toutes les émissions sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.